Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast Talk to Me Alumni. Aujourd'hui, nous recevons Benjamin Maison, actuellement gradué de programme chez le groupe ADP, donc issu de la promotion IPSA 2022. Je me présente, donc Axel de France, étudiant en 5e année en filière MPM, management de production et maintenance en conditions opérationnelles. Donc, bienvenue Benjamin, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Mais avec grand plaisir. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre entreprise, donc le groupe ADP, savoir donc les domaines d'activité et plus amplement.
Ouais, bien sûr. Le groupe ADP, c'est un groupe qui est composé de beaucoup de filiales, comme tu peux t'en douter, d'où le terme groupe. ADP, ça vient de Aéroport de Paris, parce que c'est la société qui va venir s'occuper de toute l'exploitation ainsi que de la maintenance, à la fois des plateformes françaises. Donc il va y avoir notamment CDG, il va y avoir Orly, il va y avoir évidemment également Le Bourget, mais aussi pas mal d'aérodromes un peu partout en France. Et on a également des filiales qui s'occupent de plusieurs aérodromes et aéroports à l'international, notamment sur la partie Asie. Mais on est tout d'abord une entreprise française, d'où le groupe ADP.
Qui a aussi donc une portée internationale.
Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Donc nous, historiquement, si tu veux, on a une portée qui est beaucoup plus sur le territoire français. Maintenant, on essaye de se développer de plus en plus à l'international, étant donné notamment les évolutions de trafic sur la partie asiatique. On va avoir pas mal de développement sur la partie Indo-Pacifique, et donc c'est là où ça va devenir intéressant aussi de développer notre réseau là-bas.
D'accord, merci pour cette petite présentation. Ensuite, tu es actuellement au poste de gradué de programme, en tout cas dans le programme gradué de programme. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu de quoi il s'agit ?
Oui, pas de souci. Alors, un gradué de programme, c'est un programme de 2 ans qui est fait en interne au sein de l'entreprise, donc du groupe ADP. Et c'est en fait pas n'importe quel programme, dans le sens où c'est une embauche en CDI. Ce programme-là, ça va être une première partie de ta carrière au sein de l'entreprise. Je m'explique. En fait, en 2 ans, tu vas avoir 3 missions de 8 mois qui vont être successives, sur lesquelles tu vas être affecté sur des thématiques qui vont être vraiment différentes. Donc je pourrais te parler par exemple de ma première mission, mais ces thématiques de mission sont toutes en lien avec ce qu'on appelle une filière. Chez le groupe ADP, il y a plusieurs filières, notamment moi la mienne qui est la filière exploitation, qui est la plus connue entre guillemets, dans le sens où on est en lien avec l'exploitation aéroportuaire, on est vraiment sur le terrain. Maintenant, il y a d'autres filières qui sont un peu plus diversifiées, typiquement les filières RH, les filières de finance, les filières techniques, etc. Et donc c'est vrai que à la fois cette expérience-là de 2 ans, ça te permet, en sortie de diplôme ou maxi avec 2 ans d'expérience, de voir un peu la diversité des métiers que tu as au sein de l'entreprise, la diversité des différentes directions, et également ça te permet d'avoir un aperçu assez transverse de ce que fait le groupe ADP d'un point de vue global. Et également, ça te permet d'avoir beaucoup d'expérience, au final, très très peu de temps, puisque 2 ans, c'est quand même très très court.
Est-ce que les 3 missions donc au sein du groupe ADP dans ce programme sont forcément transverses et diverses, ou est-ce que ça peut être 3 missions qui ont le même objectif, ou c'est forcément 3 missions distinctes qui ont chacun des processus finaux différents?
En fait, si tu veux, le but du programme, c'est que tu découvres l'entreprise, mais également le milieu aéroportuaire de manière générale. Et donc, en fait, si tu veux, on va faire en sorte, avec le tuteur du gradué de programme, qui est l'un des membres du COMEX, donc le comité directif, le but, en fait, ça va être vraiment de voir des choses différentes à chaque mission. Vraiment, le but, c'est vraiment ça, c'est que tu aies une expérience la plus globale possible en un minimum de temps possible. Maintenant, comme je le disais, les missions, elles vont être orientées en fonction de ta filière. Mais c'est pas pour autant que forcément tu vas pas pouvoir faire autre chose qui est un peu en dehors de ta filière, dans le sens où à la fois ces tuteurs-là sont à l'écoute aussi, et en fonction des besoins, ils peuvent t'affecter sur telle ou telle mission selon tes envies également. Donc c'est vrai que là-dessus, ça te permet de voir pas mal de choses. Maintenant, en général, ceux qui sont dans une filière d'exploitation comme moi par exemple, on va être sur des sujets plutôt en lien avec l'exploitation aéroportuaire, mais c'est assez varié, dans le sens où moi par exemple, je suis plutôt sur les aspects mobilité actuellement, mais c'est pas pour autant que je serai pas, par exemple, lors de la prochaine mission au sein de la POC ou ce genre de choses. Et donc la POC, rapidement, c'est l'Airport Operations Center. C'est là où toutes les grandes décisions sont prises, où dès qu'il y a un souci sur l'aéroport, c'est les premiers qu'on appelle, c'est les premiers qui sont au courant, qui vont venir déclencher telle ou telle procédure d'urgence, etc.
Dans le cadre de ce programme, c'est une signature CDI, c'est ça que tu as mentionné ?
Oui, absolument. D'accord. T'es pris en CDI dès le départ.
Okay. Et tu parlais de tuteur, donc il y a toujours un encadrement lors du CDI qui est effectué. Ou est-ce qu'il y a vraiment la liberté, donc comme un salarié au même titre qu'un chef de projet, puisque j'imagine que c'est...
Ouais, en fait, si tu veux, t'as pas que de la chefferie projet hein, comme mission.
Oui, bien sûr,
hein,
mais bien sûr.
En l'occurrence, en fait, si tu veux, le tutorat, il est pas comme si tu faisais un stage ou une alternance ou ce genre de choses. Si tu veux, la proximité, elle est pas là. La proximité, dans le sens tutorat que tu peux suivre un stage ou ce genre de choses, elle va être en lien avec ton manager de manière directe.
D'accord.
C'est lui qui va être ton, entre guillemets, tuteur au quotidien. En fait, quand tu as un tuteur du COMEX, comme tu peux t'en douter, ces personnes-là ont beaucoup de choses à faire. Donc, de ce fait, ils n'ont pas forcément la même disponibilité. Néanmoins, c'est eux qui vont suivre le fait que tes missions se passent bien, que tu sois dans un bon cadre, que tu fasses quelque chose qui te plaise aussi, parce que le but, évidemment, c'est de te garder après le programme.
D'accord.
Et vraiment, en fait, si tu veux, c'est eux qui vont aussi s'atteler à vérifier que les missions que tu fais ne sont pas tout le temps les mêmes, justement pour que tu puisses avoir cette ouverture concernant le milieu aéroportuaire et que tu puisses voir un peu de tout.
D'accord. Et cette vérification donc, par le tuteur se fait par quel moyen ? Est-ce que c'est des réunions mensuelles ou est-ce que c'est une visite du travail en direct ? Ça peut intervenir à n'importe quel moment
Alors là, pour le coup, on est vraiment sur un suivi non pas mensuel, mais plutôt sur les 4 à 8 mois. Dans le sens
D'accord.
où tu le vois peut-être une fois au bout de 4 mois pour vérifier si la mission se passe bien et une seconde fois... peut-être aller un mois et demi, 2 mois avant la fin de ta mission pour justement décider de la prochaine. Et pour ce qui est de la troisième mission, tu te doutes bien, on veut savoir ce qu'on fait derrière. Et donc de ce fait, en fait, à l'issue de la troisième mission, le dernier entretien que tu vas avoir avec ton tuteur, ça va être justement sur la prise de poste derrière. Parce que comme je l'ai dit, tu es pris en CDI, donc de ce fait, tu as un poste fixe qui t'est réservé derrière.
D'accord. Ok.
Et que tu choisis.
Du coup, dans ce programme, on l'a un petit peu abordé déjà, mais qu'est-ce qui t'a principalement plu et qu'est-ce qui t'a vraiment attiré ?
Alors, moi, il faut savoir que j'ai rejoint le programme il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça fait un bon 3 mois. Mais ce qui m'a principalement attiré, c'est à la fois ce côté transverse, dans le sens où tu vois énormément de choses, tu ne vas jamais faire deux fois la même chose. Il n'y a typiquement pas de journée type, dans le sens où d'un jour sur l'autre, tu ne vas pas du tout faire la même chose. L'idée c'est que vraiment tu vas suivre une thématique comme moi par exemple la mobilité donc si tu veux ça va être ce sujet là qui va m'animer tous les jours mais par exemple je vais avoir un projet différent à voir tous les jours, il va y avoir de la continuité plutôt sur des sujets un peu urgents, typiquement créer des notes de synthèse sur les mobilités, sur les transports en commun ou en fonction des rencontres que tu vas avoir avec les autres acteurs du terrain, typiquement la SNCF, Île-de-France Mobilité, la RATP, etc. Et donc en fonction de tes échanges avec les différents acteurs, tu vas avoir des sujets qui vont être différents, mais aussi des réunions différentes. Et donc, de ce fait, en fait, t'as pas vraiment de journée type.
D'accord. Et donc, quel métier est-ce que tu vises, entre guillemets, à la sortie du programme ? Est-ce que c'est déjà clair dans ta tête ou est-ce que c'est encore vague ? Est-ce que tu vises différents postes ou comment ça se passe ?
Alors, il faut savoir que moi, avant d'intégrer le groupe ADP, j'ai été pendant 2 ans chef de projet système de tri bagage. Donc, si tu veux, d'un point de vue gestion de projet, j'ai une petite expérience déjà derrière. Donc, si tu veux, je sais que je ne veux pas forcément m'orienter dans ça parce que je ne veux pas me spécialiser spécifiquement dans les systèmes de tri bagage. Maintenant, le but du programme, justement aussi, en faisant des missions différentes, c'est que tu puisses découvrir des métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et pour être franc avec toi, ça, je ne sais vraiment pas. Je sais vraiment pas ce que je vais faire derrière. J'ai quelques petites idées, évidemment, hein, typiquement peut-être responsable d'exploitation, mais je sais pas si ça va être plutôt sur la partie au sein du terminal, si ça va être plutôt la partie ce qu'on appelle côté airside, donc c'est-à-dire côté avion. Moi, je compte énormément sur ce programme-là, justement, pour m'aiguiller sur ma destination finale, si je peux appeler ça comme ça. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, entre guillemets, il n'y a pas de mauvais choix dans le sens où il y a tellement de métiers qui sont différents que ça finit par ne pas te plaire ou alors ne plus te plaire, tu as tout à fait la possibilité de changer de direction, changer de service, etc. Pour le coup, c'est
D'accord,
absolument
okay.
pas fermé.
C'est assez ouvert
absolument.
En termes de changement de poste.
Même à l'international, d'ailleurs.
Et donc, tu as ta première mission pour l'instant,
oui,
dans le programme. Est-ce que tu pourrais nous la décrire un petit peu et puis, globalement, comme il n'y a pas de journée type, pas nous décrire une journée type, mais les différentes activités que tu as vues et que tu es en train de voir pour qu'on se rende compte un petit peu de la transversalité de chaque de chaque journée.
Ouais, bien sûr, pas de souci. Donc, comme je te disais, moi, je suis plutôt chargé de mission mobilité en ce moment. Et c'est ce que je vais faire là pour les encore 5 prochains mois. Et en fait, si tu veux, j'ai deux principaux projets qui me sont affectés personnellement, où c'est moi qui vais les gérer, c'est moi qui vais avancer là-dessus. Le premier, ça va être l'Observatoire des mobilités. Donc, c'est un outil qu'on développe actuellement en interne pour rassembler sous forme de tableau de bord toutes les données de mobilité. Donc, ça porte sur le train, les transports en commun, les bus, la gare routière, les accès, etc. Ainsi que tout un tas d'indicateurs qui sont très importants pour la direction, typiquement les synergies airfare, de savoir combien il y a de personnes qui vont prendre des correspondances train-avion, etc. Parce que ça fait partie évidemment des objectifs de développement du groupe. Maintenant, ce projet-là, si tu veux, il ne me prend pas 100% de mon temps. C'est pour ça que j'ai d'autres activités également. La deuxième grosse activité que je fais en partenariat avec une collègue, notamment, c'est le schéma directeur Landsite de CDG à Horizon 2050. Alors, pour décrypter un peu ce que c'est, je vais essayer d'être assez concis, assez simple. En fait, si tu veux, pour savoir comment va se développer une plateforme aéroportuaire, on fait ce qu'on appelle des plans directeurs. C'est en gros, on prend une cartographie, on a l'aéroport devant nous et on essaye de savoir, bon, bah, telle parcelle de la carte ou de la plateforme, elle va être affectée à telle fonction. Et donc, ces fonctions-là, ça peut être des fonctions énergie, des fonctions airside, ça peut être des fonctions transport en commun, ce genre de choses. Et donc, en fait, à partir de ce plan directeur-là, qui est en général à un horizon à 30-40 ans, eh ben, on va décomposer ça en ce qu'on appelle des schémas directeurs, qui en fait sont des images un peu micro de ce plan directeur-là et qui permettent de développer en fonction d'une thématique bien précise. Donc typiquement, moi, ma thématique, ça va être la partie landside, donc la partie accueil passager, etc., ainsi que la mobilité. Et on va développer ça plutôt sur une échelle de temps un peu plus proche, donc notamment 2035, et progressivement, on va phaser jusqu'à l'objectif 2050. Donc ça, vraiment, c'est les deux gros projets sur lesquels je travaille. Et ensuite, après, bah, t'as des petits projets annexes, des notes de synthèse pour D'accord, la direction, ouais. T'as ce genre de petites choses.
Et donc, le schéma directeur, c'est un peu les axes d'évolution, les vecteurs d'évolution de l'aéroport ?
C'est ça, oui. En fait, si tu veux, c'est vraiment, d'un point de vue cartographie,
C'est une estimation de l'évolution de l'aéroport.
Plutôt les orientations.
Les orientations.
C'est vraiment les orientations D'accord. stratégiques okay. de qu'est-ce qu'on veut faire de l'aéroport, quand...
D'accord, okay. En fonction des besoins, en fonction des requis.
Exactement. Okay. Et donc, tu as plein de données d'entrée. Tu as notamment les données de trafic passager. Tu vas avoir des stratégies aussi en interne. Donc, par exemple, les synergies airfare. Tu vas avoir, en fonction de toutes ces données d'entrée-là, ça va apparaître sur le plan directeur comme étant bon, bah, voilà, une réserve pour telle fonction, etc., stratégique. Et nous, derrière, on va développer la fonction. Si typiquement, on parle de la fonction accueillir un nouveau transport en commun, comme ça peut être par exemple le cas sur CDG avec le CDG Express, et bah, typiquement, un projet qui va être important, ça va être la gare qui va accueillir les passagers. Et donc, dans le cadre du schéma directeur, on va donner les grandes lignes de comment cette gare doit être, quelle capacité elle doit accueillir, etc., pour que derrière, le service qui s'occupe de la faisabilité des projets ainsi que le montage des projets puisse prendre le relais et créer le projet de toutes pièces, le phaser, donner un planning, un coût, etc.
Au niveau du planning de travail de tes deux projets, tu évalues à combien de pourcents dans ta charge de travail chaque projet ? Est-ce que c'est 50-50 ? Ou est-ce que c'est plus 70-30 ou
Alors, je dirais que le schéma directeur me prend beaucoup plus de temps que l'observatoire
D'accord.
des mobilités.
Okay.
Tout simplement parce qu'on est sur des phases de projet qui sont différentes. Le schéma D'accord. directeur, on le commence seulement, donc si tu veux, il me prend 80% de mon temps à peu près. Maintenant, l'Observatoire des mobilités, on est sur une industrialisation, on est sur une vérification de données, etc. Donc, on va dire que... À l'arrondi près, on est sur les 20% restants.
Dernière question avant de passer à la deuxième partie de l'échange. Pourquoi avoir choisi le groupe ADP ?
Ça, c'est une excellente question. En fait, si tu veux, bon, ça va, je ne vais pas le cacher très longtemps. Moi, je suis passionné de l'aéronautique, de l'aéroporture depuis tout petit. J'ai mon oncle qui travaille au Bourget. notamment chez Dassault. Et donc forcément, bah, quand j'étais petit, ils m'emmenaient régulièrement sur les plateformes aéroportuaires pour voir les avions, etc. Et donc en fait, si tu veux, à partir de ce moment-là, il y a toujours eu une petite envie chez moi de savoir comment est-ce qu'un aéroport ça a fonctionné, quels étaient les différents acteurs, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai orienté mon début de carrière dans le système tri-bagages. C'est parce que justement, je voulais voir vraiment le cœur de l'aéroport, comment ça fonctionnait. D'accord. Maintenant, le groupe ADP, c'était sincèrement une opportunité que j'ai vue je me suis dit tout simplement pourquoi pas. Et bah, de fil en aiguille, ça s'est passé comme ça. Et voilà, je suis arrivé chez le groupe ADP.
Ok, super. Donc maintenant, faisons un petit détour sur tes années passées à l'IPSA. Comment as-tu connu l'IPSA, déjà dans un premier temps? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'école par la suite?
Alors moi, il y a eu plusieurs raisons. D'abord, je vais répondre comment j'ai connu l'IPSA. Bah, tout simplement, j'ai fait des recherches, dans le sens où je savais que je voulais m'orienter vers l'aéronautique, vers l'aéroportuaire. Je savais que je voulais faire une école vraiment spécialisée là-dedans. Donc j'ai cherché tout simplement sur Internet et bah, je suis tombé sur l'IPSA. J'ai fait 2-3 JPO pour voir un peu comment c'était les locaux, comment étaient les étudiants entre eux, etc. Comment ça se passait d'un point de vue associatif. Et au final, en fait, si tu veux, après avoir fait plusieurs journées portes ouvertes à la fois de l'IPSA, mais aussi d'autres écoles, je me suis rendu compte qu'en fait, en termes d'esprit, l'IPSA, c'est vraiment une école de passionnés. Dans le sens où, sincèrement, de toutes mes années IPSA, s'il y a eu un seul jour où j'ai pas parlé avion au sein de l'IPSA, franchement, je le cherche encore. Donc vraiment, c'est ça que je retiens et c'est vraiment la raison principale de pourquoi j'ai choisi l'IPSA. Après, il y avait évidemment d'autres avantages, notamment le réseau à l'international, les possibilités d'évolution derrière qui étaient assez variées. Et donc, en fait, si tu veux, tu fais un melting pot de toutes ces raisons-là et c'est pour ça que j'ai choisi l'IPSA.
Quel cursus as-tu choisi en 3e et 4e année et quelle double option as-tu choisi en dernière année?
Alors, moi, je suis arrivé à l'IPSA après une prépa classique, donc c'est pour ça que tu mentionnes évidemment la 3e année. Moi, en 3e année, je suis parti plutôt dans la filière système. Parce que c'est ce qui, sincèrement, moi, me parlait le plus. Et j'étais assez intrigué sur la partie système embarqué, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris cette option-là. En 4e année, j'ai suivi logiquement dans ce cursus-là en système mécatronique. Dans le sens où je voulais voir à la fois un peu tous les domaines techniques, si tu veux. Et la mécatronique, ça me plaisait bien parce que ça permettait de voir un peu de méca, un peu d'automatisme, un peu d'élec, etc. Néanmoins, j'avais vraiment envie d'avoir ce profil vraiment transverse et la gestion de projet, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment grandement. Et donc c'est pour ça qu'en dernière année, j'ai décidé de partir en management de projet industriel. Et dans cette suite logique, comme tu as pu le voir, mon premier emploi, ça a été en tant que chef de projet. Donc à la fois, je suis content d'avoir fait ce cursus-là de système et système mécatronique parce que ça m'a permis d'avoir des compétences techniques qui m'ont permis de comprendre mes équipes, qui étaient vraiment des experts techniques qui me demandaient quel bouton on devait choisir pour tel ou tel équipement. Donc, c'est te dire à quel point c'était vraiment précis. Mais à la fois, la majeure MPI, vraiment, ça m'a apporté ces compétences beaucoup plus transverses, ces compétences vraiment de gestion de planning, gestion de budget, etc. Et c'est vraiment ça qui me sert encore aujourd'hui dans le cadre des projets que je dois gérer, évidemment.
Concernant ton semestre international, où l'as-tu effectué? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des cours que tu as suivis là-bas? Et est-ce que ça t'a vraiment apporté une expérience donc étrangère, donc une amélioration au niveau de ta langue et dans un contexte qui est anglophone, si c'était le cas?
Alors, moi, il y a une blague que j'aime beaucoup faire auprès des étudiants, c'est que moi, mon semestre international, je l'ai fait à Ivry-sur-Seine. Dans le sens où, malheureusement, je suis de la génération qui a subi le Covid, où malheureusement, j'ai pas pu partir à l'étranger. Normalement, je devais partir au Canada, à l'université de Sherbrooke, où je devais suivre des cours de mécatronique classés parmi les meilleurs du monde, etc. Bon, malheureusement, j'ai pas pu partir, mais je retiens quand même une expérience très positive de ce semestre-là, dans le sens où on a eu des cours tout de même d'universités partenaires à l'international, typiquement des cours de la République tchèque ainsi que des cours de l'université d'Arizona aux États-Unis. Et même si j'ai pas eu cette expérience vraiment de vivre à l'international, en fait, si tu veux, ça m'a pas vraiment manqué dans le sens où les cours tels qu'ils étaient présentés, ainsi que les interventions de professeurs externes à l'IPSA, ont été présentes. Donc, si tu veux, j'ai pas vraiment eu cette sensation d'être lésé par rapport à d'autres qui ont pu partir de la promo d'avant ou de la promo après moi. Maintenant, pour ce qui est de l'expérience internationale, dans le cadre de mon ancien travail, ces deux dernières années, je suis beaucoup parti à l'étranger. J'avais notamment un projet en Serbie, j'avais un projet en République Dominicaine, et donc si tu veux, pour les besoins du projet, j'allais régulièrement sur place. Et donc en fait, même si j'ai pas eu cette expérience à l'international comme n'importe quel autre étudiant de l'IPSA, eh ben, je me suis pas senti lésé dans le sens où j'ai eu cette expérience à l'international tout de même en début de carrière. Et donc, même si le Covid était là, bah, je trouve que c'est une belle revanche quand même.
Question suivante, où as-tu effectué tes deux stages, ton stage de quatrième année et ton stage de fin de cursus, et est-ce que tu as continué, signé en CDI, suite au stage de fin d'études, ou est-ce que tu as changé de boîte parce que c'était pas ce que tu voulais faire ?
Alors, en quatrième année, j'étais au sein de l'entreprise Festo France, qui est la filiale française du groupe Festo, qui est d'origine allemande. Et pour redonner un peu de contexte, à ce moment-là, j'étais en système mécatronique. Je savais que je voulais faire de la gestion de projet, et donc je me suis dit, même si le Covid est là, même si ça va être compliqué de trouver un stage, je veux vraiment en avoir un. Et je suis très content de ça. Je suis vraiment très content d'avoir pu entrer dans cette entreprise, dans le sens où déjà le contexte était compliqué d'un point de vue financier et d'un point de vue ressources humaines. Le gros atout que j'ai eu avec ce stage-là, c'est que j'ai fait de la gestion de projet, dans le sens où c'était moi qui gérais le développement de nouveaux contenus, notamment à caractère éducatif, sur des matériaux et des matériels que développait la boîte. Donc ça, vraiment, c'était mon premier stage. J'ai fait ça pendant un peu moins de 4 mois. Et à la fois, ça m'a conforté dans la gestion de projet. Ça m'a définitivement convaincu que c'était là-dedans que je voulais travailler. Mais à la fois, ça m'a permis aussi de voir un autre domaine que l'aéronautique. Et ça m'a pas déplu pour autant, dans le sens où ça m'a permis de voir autre chose. Néanmoins, mon stage de 5e année, je l'ai toujours fait dans la gestion de projet, mais je l'ai fait dans une entreprise qui vendait des machines de sûreté. Donc c'était une toute petite entreprise qui s'appelle Detectin, hein, qui est à Boulogne-Billancourt, et qui est en fait une entreprise qui est distributeur d'une grosse entreprise chinoise qui s'appelle Nuctech. Et donc moi, mon job, c'était de gérer des projets dans la boîte, notamment les projets aéroportuaires, mais également les projets en lien avec les douanes ou le ministère de l'Intérieur. Et si tu veux, le gros intérêt que j'avais, c'est que j'avais une première touche avec l'aéroportuaire, puisque je m'occupais de clients, notamment qui étaient des aéroports français, mais aussi à l'international. Et ça m'a permis aussi d'avoir une première expérience dans le système tri-bagage, parce que bah, ces machines de sûreté, qui au final sont des scanners, comme on pourrait tous en passer un IRM, c'est le même principe. Hein. Ça m'a permis à la fois de rentrer également dans le tri-bagage, qui était un élément qui, moi, m'a beaucoup plu. Donc j'ai fait 6 mois là-bas, et au bout des 6 mois, malheureusement, je ne suis pas resté. J'ai décidé de partir pour rejoindre une autre entreprise, toujours dans le système tri-bagage, qui s'appelle Alstev Group, qui est basé à Orléans. Et si tu veux, en fait, j'avais pas forcément envie de faire uniquement de la gestion de projet pour une seule machine. Je voulais voir un système un peu plus complet, un peu plus complexe également, dans le sens où l'installation d'une machine qui est déjà construite, etc., en usine, et que tu viens mettre en service, c'est pas pareil que de concevoir le système complet. Et c'est vrai que là, pendant 2 ans, j'ai pu justement être en gestion de projet toujours, mais à la fois de la partie études, conception, fabrication, mais également mise en service du système complet. Et c'est vrai que là, pour le coup, au-delà d'avoir des compétences techniques supplémentaires de par la difficulté et la complexité du système, ça m'a permis aussi, d'un point de vue gestion de projet, de voir beaucoup plus de choses d'un point de vue financier, d'un point de vue planning, etc. Et donc c'est vrai que ça m'a permis de voir énormément de choses, et en fait c'était complémentaire par rapport à mon stage.
Et est-ce que donc pour ton premier emploi en CDI, est-ce qu'on t'a démarché pour ce poste? Ou est-ce que tu l'as trouvé de toi-même sur LinkedIn ou autre ?
C'est moi qui ai candidaté.
D'accord. Ok, super.
J'ai eu pas mal de démarchages de la part d'entreprises en Île-de-France. puisque à la fois tu as un profil un peu transverse quand tu as fait une filière de management, bien que sûr. Soit toi, toi MPM ou moi MPI, et donc de ce fait en fait tu es contacté assez régulièrement. Maintenant, les entreprises qui m'avaient contacté ne me permettaient pas d'avoir une évolution de carrière telle que je la souhaitais. Et donc de ce fait, j'ai juste décliné leur proposition et j'ai candidaté justement chez Alstef Group parce que c'était une entreprise avec laquelle j'ai travaillé pendant mon stage de fin d'études, mais également parce que je savais que j'avais une expérience que je pouvais me faire là-bas qui allait me convenir et aussi cette expérience, je pouvais la faire à l'international avec des projets notamment à l'export.
Ok, merci pour ces réponses. Peux-tu nous parler de ton PMI ? Mon projet master IPSA, donc de fin de cursus.
Oui. Alors, concernant mon projet master IPSA, on était un petit groupe de 5 et on voulait avoir une vision un peu macro de ce que pouvaient être les synergies entre l'air et le fer dans le cadre du transport de passagers en France. Et donc en fait, si tu veux, dans ce cadre-là, on a essayé de voir avec une certaine enveloppe budgétaire quels étaient les projets qui pouvaient être intéressants à mettre en place pour développer à la fois le réseau ferroviaire et aérien, de manière à ce qu'ils soient complémentaires et puis qu'on puisse avoir une certaine logique dans le cadre du transport de ces personnes. Et donc en fait, si tu veux, à la fois on a pris un exemple concret qui était l'aéroport Charles de Gaulle, puisque le gros avantage c'est que à la fois c'est un aéroport, mais aussi il a une gare ferroviaire TGV au sein de cet aéroport. Donc en fait c'était un 2 en 1, ce qui nous permettait à la fois d'avoir un bon exemple, et au-delà de ça, ça nous permettait aussi d'ouvrir à de plus gros horizons, à la fois sur tout le territoire national, mais également 2-3 idées à l'international aussi, de manière à ce qu'on puisse voir d'un point de vue plus global le transport des passagers. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, et je pense que si je suis sur des missions de mobilité pour ma première mission au sein du groupe ADP, c'est peut-être parce que ça leur a tapé D'accord. dans l'œil.
Et c'est ce que j'allais dire, c'était un projet un peu précurseur de ta mission actuelle, finalement.
Ouais, totalement.
Totalement.
Et c'est vrai que là, okay. pour le coup, moi, c'était un sujet qui m'intéressait de manière assez globale. Et le fait de retrouver ça comme première mission au sein du groupe ADP, à la fois, ça m'a fait rire un peu. Mais je me suis dit, pourquoi pas, c'est un challenge et ça promet d'être sympa. Ça me permet de développer un peu ce que j'avais fait en fin d'études à l'IPSA.
Dans quelle association, parce que l'IPSA est très connue pour son nombre très élevé d'associations, donc dans quelle association étais-tu au sein de l'IPSA ?
Alors moi, principalement, j'étais dans le bureau des sports, je faisais beaucoup de tennis.
D'accord.
Donc je faisais j'étais simple membre dans l'association de tennis, et également j'étais membre dans l'association de spotting, parce que j'aimais bien voir les avions, et c'était une asso qui nous permettait de prendre des photos, etc. sur les plateformes, donc c'était bien sympa. Un gros plus que j'en retiens, c'est que vraiment ça m'a permis de côtoyer d'autres promos, de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus informelle, que pendant des cours ou ce genre de choses, et à la fois ça a permis de prendre des conseils des plus anciens, de donner des conseils aussi aux plus jeunes. Vraiment ça a permis d'avoir cet esprit un peu famille encore plus qu'on a au sein de nos promotions, et vraiment en fait pour moi, si tu veux, c'était important de m'engager dans les assos parce que pour moi ça faisait partie de l'expérience IPSA. Je sais pas si
D'accord.
tu vois ce que je veux
oui,
dire,
bien sûr.
Mais
tout à fait.
C'est bien de suivre les cours, c'est bien de discuter avec les professeurs, avec les gens de ta promo, de parler d'actualité, etc. Mais vraiment, le fait d'avoir au moins une association, ça me permettait à la fois aussi de, au-delà de développer le réseau, de vivre à fond l'expérience IPSA. Bon, et puis en plus de ça, je participais à quelques événements tels que des journées portes ouvertes, des forums, etc. Parce que tout simplement, moi, j'adorais ça, renseigner les familles sur l'école, leur donner envie de venir. Si tu veux, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, et c'est pour ça que je reviens aussi, des fois, en tant qu'ancien, pour des journées portes ouvertes, pour des concours, etc.
Ok, super. Si maintenant, tout de suite, tu devais décrire en un mot l'ensemble de ton expérience IPSA, lequel serait-il ?
Ah, ça, c'est une bonne question.
Sinon, 2-3 mots...
Non, je vais me contenter d'un. Je vais dire inoubliable.
Inoubliable ?
Ouais.
D'accord. Oui, c'est très positif, ça.
Ouais.
Ok.
Ça fait partie des meilleures années de ma scolarité, sincèrement. Donc j'ai que des bons souvenirs à l'IPSA et c'est aussi pour ça que je reviens régulièrement. Pour moi, l'IPSA, c'est la maison.
D'accord. Pour revenir donc sur, sur le graduate programme,
ouais.
Comment fait-on pour devenir graduate, enfin pour intégrer le programme, et quelles sont les différentes étapes à suivre pour y accéder?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour intégrer le graduate programme, il y a des prérequis. Le prérequis principal, c'est que tu ne dois pas avoir plus de 2 ans d'expérience. Donc, c'est d'accord. Vraiment un programme qui est dédié pour les jeunes diplômés. Donc, tu peux postuler à plusieurs moments. Hein. Tu peux postuler dès la sortie d'école, au bout d'un an, au bout de 6 mois, 2 ans, etc. Tant que tu n'as pas plus de 2 ans, c'est bon. Maintenant, en termes de processus de recrutement, c'est très clairement un combat. Dans le sens où tu as t'as des étapes à chaque fois et en fait ces étapes-là ce sont des entretiens. Tu as un premier entretien avec une RH qui va te permettre de décrire un peu le poste, de savoir si toi en tant que profil ça conviendrait aussi aux exigences d'ADP, du groupe ADP, et donc de ce fait en fait si tu veux ça te permet de savoir si en termes d'orientation ça correspond aussi à ce que toi tu veux faire de ta carrière, hein, c'est important. Ensuite, tu as un deuxième entretien qui est fait avec le tuteur Comex. Donc moi, typiquement, puisque je suis en filière exploitation, je l'ai fait avec Justine Coutard. Donc Justine Coutard, si tu ne la connais pas, c'est la directrice de la plateforme Aéroport d'Orly.
D'accord.
Donc c'est pas non plus n'importe qui, tu vois. Hein,
tout à fait.
Et donc forcément, ces entretiens-là, même si tu les prépares sincèrement, tu te prends une vague de stress dans les 5 minutes avant le début de l'entretien. Parce que, bah, mine de rien, moi, j'ai vécu ça comme étant beaucoup de pression. Et puis, c'est un processus qui est ultra sélectif. Donc, c'est assez, assez stressant. Et enfin, tu as une dernière étape qui est de nouveau avec, avec une personne des ressources humaines. Où, en fait, tu vas faire un entretien de personnalité. Et
d'accord.
Donc, si okay. tu veux, en fait, cet entretien de personnalité, ça leur permet de voir déjà, d'un point de vue comportemental, si ce qu'ils ont vu pendant les 2 premiers entretiens, ça correspond bien à qui tu es réellement. Et au-delà de ça, en fait, si tu veux, le but du graduate programme, c'est de former leur futur cadre dirigeant. Et donc, de ce fait, au travers de cet entretien de personnalité, ça va te permettre de savoir si à la fois la personne, elle va pouvoir assurer le rôle de manager, voire de directeur, mais aussi, ça permet de savoir si la personne, elle va pouvoir se conformer aux valeurs du groupe. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais,
oui, tout à fait.
Mais typiquement, par exemple, nous, le groupe ADP, les valeurs, c'est responsabilité et hospitalité. Si toi, ça ne te parle pas, ça va être un peu compliqué d'être sur un poste de manager ou de directeur, étant donné que ce sont des messages que tu vas relayer et que tu vas devoir relayer de manière assez naturelle. Donc, c'est là où ça leur permet aussi de juger si tu es apte ou pas à te conformer à ces valeurs-là. Qui sont importantes. Et puis même au-delà de ça, ça te permet de savoir si avec, avec ton futur manager, ça se passera bien, etc. C'est vraiment assez complet. Mais la chose qu'il y a à retenir, c'est que même si c'est un parcours qui se fait en 3 étapes, il y a d'autres parcours, d'autres process de recrutement qui sont plus longs que ça. Mais en fait, si tu veux, vu que c'est très sélectif, même si tu as l'impression d'avoir super bien performé, tu n'es jamais sûr à 100% d'être pris pour l'étape suivante. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui,
et okay. Donc c'est là où le stress, il est là également. Et
le temps de réponse moyen entre 2 étapes, c'est quoi, à peu près 1 semaine, 1 mois?
Alors ça dépend, ça dépend. Moi, ça a été extrêmement rapide dans le sens où une fois que j'ai fait le premier entretien, 2 semaines plus tard, j'ai eu mon 2e entretien et le lendemain, j'ai eu mon 3e. Donc si tu veux, vraiment, ça dépend des candidats. Moi, ça a été extrêmement rapide. Il y a eu, par exemple, une collègue à moi qui est dans le graduate programme, mais dans la filière technique, qui, elle, par contre, a eu une réponse un peu plus tardive et avec un peu plus de temps entre les entretiens. Bon, ça relève de maxi 2 à 3 semaines, tu vois. Donc c'est un processus qui, en général, se fait assez rapidement, surtout si, comme moi, tu étais déjà dans une entreprise, ils savent que tu as un préavis derrière avant de partir de ta boîte. Donc de ce fait, s'ils sont vraiment intéressés, ils vont faire en sorte que ça aille ultra vite pour que tu puisses les rejoindre le plus vite possible. Maintenant, si tu es sorti d'école, entre guillemets, tu es dispo tout de suite. Et donc de ce fait, il n'y a pas cette même pression de il faut démarrer le préavis le plus tôt, etc. Mais vraiment, ça dépend. Mais en général, on essaie de répondre le plus vite possible aux candidats.
Et est-ce que c'est possible, du coup, dans le cadre du graduate programme, de faire son stage de fin d'études et le faire rentrer dans le graduate programme, ou ça ne fonctionne qu'une fois diplômé?
Alors, ça fonctionne qu'une fois diplômé. Le graduate programme, c'est vraiment un programme à part. C'est vraiment
pour les diplômés.
Exactement. C'est un programme vraiment où tu es pris en CDI. C'est vraiment ultra important. Hein. Tu es pris en CDI. D'accord. C'est pas une période d'essai de 2 ans ou un truc comme ça. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment tu es pris en CDI. Un stage de fin d'études, par contre, ça te permet d'avoir une petite porte ouverte en interne. Donc si tu veux, si t'as candidaté par exemple en stage de fin d'études ou alors un stage avant au sein du groupe ADP, forcément ça t'aide parce qu'ils connaissent déjà ton profil. Maintenant, le gros avantage, c'est que même si t'as jamais été en stage au sein du groupe ADP, tu peux tout de même espérer être au sein du graduate, donc comme moi, parce que le processus est le même que tu sois en interne ou en externe. Mais il faut vraiment retenir que le graduate programme, c'est une embauche en CDI, c'est pas un stage.
Si maintenant tu devais dire quelque chose au Benjamin qui rentre à l'IPSA en 2019 et qui vient tout juste de découvrir l'IPSA, qu'est-ce que tu lui dirais là, s'il était en face de toi ?
Alors la première chose que je dirais, ce serait lâche rien, conserve ta motivation, conserve ta détermination parce que tu verras où ça va te mener et tu ne seras pas déçu. Et la deuxième chose, c'est si tu entends parler d'un truc qui s'appelle le Covid, méfie-toi.
Merci beaucoup, Benjamin,
merci à
pour
toi.
Cet entretien. Je te remercie pour cet échange et je te souhaite une bonne continuation dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle également.
Merci beaucoup, je te souhaite le meilleur également.